Guillaume Lafleur et moi, Sylvano Sansini, proposons une série d'émissions radiophoniques autour de la notion de la vie quotidienne inspirée d'Henri Lefebvre, telle qu'elle aurait circulé ici, au Québec, dans un certain milieu intellectuel sensible à la pensée marxiste et dans le cinéma documentaire dans les années 60 et 70. Puisqu'il s'agira de présenter le mouvement d'un objet de pensée, non pas comme développement conceptuel, mais comme nexus, dirions-nous, d'un réseau d'influence, nous établissons d'emblée les termes de notre course entre la lettre de Patrick Strahan à Guy Debord en 1960, comme point de départ, et comme point d'arrivée, Chronique de la vie quotidienne, film dirigé et co-réalisé par Jacques Leduc en 1977. Nous espérons remplir l'écart entre ces termes en mettant en relation un certain nombre d'expériences prises ici et là dans le milieu intellectuel de l'époque près du cinéma et qui n'ont, à première vue, aucun lien entre elles. Notre visée sera alors de créer une continuité entre ces expériences, laquelle joindrait idéalement, à son terme, la lettre de Strahan au film de Leduc. Nous croyons que la forme même de la série radiophonique correspond ainsi au contenu que nous voulons lui donner. L'actualisation de l'essaimage d'une notion ou, pour dire les choses autrement, la mise à jour d'un réseau en train de se faire. Et nous insistons sur le « en train de se faire » car si ce réseau appartient de fait au passé, aux années 60-70, il ne fait pas encore partie des représentations actuelles de la vie intellectuelle de l'époque. Comme il sera question en partie dans notre première émission du seul représentant de l'international situationniste au Québec, Patrick Strahan, nous plaçons volontairement le cheminement de notre pensée, qui prend la forme de la série radiophonique, sous le principe de Debord auquel était sensible Strahan. Il faut signifier, une fois pour toutes, que l'on ne saurait appeler création ce qui n'est qu'expression personnelle dans le cadre de moyens créés par d'autres. Avec ces émissions, nous avons voulu nous éloigner délibérément des formes d'expression universitaires que nous connaissons bien et que nous avons l'habitude de pratiquer. Le colloque, le numéro de revue, l'article scientifique, la journée d'études ou bien la conférence.
Premièrement, faisons un portrait de Patrick Strahan pour ensuite s'acheminer vers ce qui est l'objet de notre discussion ici, c'est-à-dire la lettre de Strahan à Debord. Qui est Patrick Strahan et pourquoi cette lettre? Premièrement, Strahan est une des figures centrales de ce qui deviendra l'international situationnisme. Donc, un des participants actifs de la veine que Guy Debord qualifiera d'extrême gauche de l'international lettriste, constitué essentiellement de trois compères qui étaient alors, autour de 1952, Guy Debord, Ivan Stenglov, alias Gélivin, et Patrick Strahan. Strahan est donc un interlocuteur de premier plan pour Debord, en particulier, et il s'avère qu'en 1954, pour des convictions politiques, Strahan quitte la France. En fait, il est objecteur de conscience.
Il avait peur, finalement, je crois, d'aller en Algérie, ou il n'avait pas tout à fait envie d'aller en Algérie.
Oui, la raison politique est là, c'est non seulement la peur de faire, ou le refus de faire son service militaire, mais surtout le refus de participer à un effort de guerre pour lequel ses convictions sont nulles. Donc, il s'en vient au Canada, il s'installe avec sa famille, déjà à l'époque, à Montréal, pour quelques temps, et puis, pour travailler, il ira en Colombie-Britannique pendant quelques années, bûcher, où là, son effort consiste simplement à la survie, dirait-on, à la fois de son corps propre, mais aussi d'une famille. Et tout ce qui est de l'ordre de la vie intellectuelle et d'un passé idyllique qu'il décrivait dans un roman publié chez Alia, à titre posthume, bien sûr, au milieu des années 2000, qui s'appelle « Quand les bouteilles se couchent ». Donc, toute cette vie d'errance et de réflexion, de discussion avec Debord et ses amis à Saint-Germain-des-Prés est très loin de lui. Il veut renouer avec cette réalité à un moment donné et retrouver aussi un état civil, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'il arrive au Canada, Strahan est plus ou moins un être flou, c'est-à-dire qu'il n'a pas la citoyenneté canadienne et ne peut pas retourner dans son pays, bien entendu. Il revient à Montréal à la fin des années 50, Et au bout de quelques mois, va déjà se construire ce qui est la figure Straram et sa légende, quelque peu encombrante, vituperante, allumée et allumeur. En d'autres termes, Straram trouvera le moyen de s'introduire à la SRC dès les premiers, je crois, au bout de 8 mois de son deuxième passage à Montréal. À titre de commis, il travaillera à la SRC. Il y aura bientôt une grève très importante à laquelle il participera activement, alors qu'il est à peine connu, mais c'est comme ça qu'il va se faire connaître. Et vont se nouer des amitiés telles que celles qu'il développe pendant quelques temps avec Pierre-Éliott Trudeau, avec Jean-Guy Pilon, Gaston Miron, Paul-Marie Lapointe et quelques autres.
Oui, portugais. Il est déjà assez actif aussi, oui, pour cette grève au printemps 59 à Radio-Canada, mais il écrit déjà dans Cité Libre, d'où sans doute le lien avec Pierre-Éliott Trudeau, et dans Situation aussi, Point de vue, donc des revues sensiblement de gauche, je crois, de l'époque.
Oui,
en tout cas, progressiste. Libéral,
oui, oui, il faudrait revérifier pour ce qui a trait aux dates, mais je crois que le moment de la grève et le moment où Straram commence à rédiger dans Cité Libre est à peu près. Tout ça se fait à peu près en même temps.
Le moment de la grève, c'est aussi la première apparition publique importante de Straram au Québec, parce que comme il le dit, ce qui l'a brûlé finalement dans cette grève-là, c'est qu'il le dit à Stéglove, dans sa lettre à Stéglove, qui date à peu près de la même année que la lettre à Debord. On dira un peu pourquoi, un peu plus tard peut-être. Comme il le dit donc à Stéglove, c'est qu'il dit qu'il faisait la une de plusieurs journaux à l'époque. Donc, comment on pourrait dire, un petit con bandit, ou je ne sais pas trop, de cette grève de Radio-Canada. Son image, en tout cas, circulait dans les journaux. Et cette première apparition publique importante, je pense.
Oui, il a eu l'air déjà d'un agitateur relativement articulé qui pouvait se faire entendre sur la place publique. Donc, il est déjà un personnage public après 8 mois, passés à Montréal. Et dès lors, évidemment, il devient préoccupé du fait d'une vie intellectuelle active qu'il aimerait mener dans la continuité de ce qu'il faisait déjà à la fin de l'adolescence lorsqu'il participait à l'International Lettriste. Et c'est dans ce contexte, donc, qu'il y aura cette correspondance brève, mais passionnée, importante, entre Straram et Debord. La question que se pose Straram en 1960, lorsqu'il rédige sa lettre à Debord, c'est de savoir comment importer le mouvement situationniste dans un contexte québécois, sachant aussi que Debord a en tête que ce mouvement soit réellement un international au sens où il déborderait de l'horizon strictement européen et de l'axe qui était aussi un peu l'axe de Cobra en ajoutant Paris, donc la Hollande, la Belgique et l'Europe du Nord. Donc, comment intégrer peut-être les pensées, faire passer les pensées du situationnisme outre-mer en Amérique du Nord? Mais il y a le meilleur moyen, puisqu'il y a des francophiles et très peu d'anglophiles dans ce mouvement, c'est passé par le Québec, qui est le principal contact, c'est Patrick Straram.
Debord, donc, voulait donner cette dimension internationale à l'international situationniste, et c'était un lieu parfait pour lui. Straham, qui était à Montréal, était un complice parfait, mais c'était aussi de renouer d'une certaine manière avec ces deux complices de l'époque de l'international lettriste. Donc, autour de 53, ils faisaient des dérives avec Patrick Straham et Stéglove. Et bon, une brouille à propos d'un texte de Stéglove que Debord a laissé paraître dans un numéro de Potlatch aurait brisé un peu l'amitié entre ces trois complices. Et Straham se serait rallié à Stéglove et Debord, qui lui, de son côté, a continué ses affaires en laissant ses deux complices pour le moins en dehors de la fondation de l'international situationniste. Donc Debord, à la fin des années 50, aurait voulu renouer un peu l'amitié qu'il avait avec Stéglove et Straham. Et surtout, comme il avait perdu totalement contact avec Stéglove, mais sachant que Straham avait quand même encore un contact avec lui, il y a aussi cette tentative à travers Straham de renouer contact avec Stéglove, d'où aussi une main tendue de la part de Debord à Straham. Et évidemment, Straham qui est comme on peut le lire dans sa lettre, et je pense qu'on va en parler beaucoup, surtout dans la première partie, dans l'obscurantisme québécois de la fin des années 50, dans ce désert intellectuel, Maître Strahan, il voit la possibilité de renouer avec une vie intellectuelle active.
Dans la nature même des échanges entre Strahan et Debord, le goût de soutenir une relation d'amitié, oui, mais aussi y trouver une continuité dans son travail. Donc il y a des raisons assez égoïstes associées à ça. Pour Strahan, c'est certainement autre chose qui le rattache, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce dialogue, mais entre autres, cela lui permet de déjà apporter du sang neuf sur la scène littéraire québécoise et son apport est unique au début des années 60 dans le milieu littéraire québécois, puisque au moment où cette correspondance a lieu, il va publier en même temps le cahier pour un paysage à inventer qui confronte littéralement, on le voit déjà dans la table des matières dans les premières pages, des textes de Guy Debord, des textes de Strahan qui se montrent dans la mouvance de la pensée situationniste avec des œuvres qui relèvent plus ou moins de ce que va être le comité de rédaction de Parti pris et la bande de l'Hexagone.
Ce qu'il faudrait aussi préciser, je crois, c'est l'intérêt aussi peut-être de la publication de la lettre à Debord, une publication qui a tardé quand même, en 2006. C'est peut-être aussi le statut de Patrick Strahan dans l'histoire même intellectuelle au Québec, qui m'apparaît pour le moins très effacé des histoires intellectuelles au Québec. Peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas, toi, est-ce que tu as lu beaucoup de choses autour de la figure de Strahan, à part bon, cette figure de la contre-culture montréalaise, le buveur, l'intellectuel à la taverne, etc. À part cette figure un peu excentrique, marginale, mais l'ascendant des idées de Patrick Strahan, qui viennent aussi du situationnisme, sur les intellectuels québécois dans les années 60. En tout cas, il y a très peu, à mon avis, il y a très peu de choses qui ont été écrites, très peu de choses qui ont été écrites sur son réseau donc intellectuel, mais aussi le passage de ses idées dans ce réseau. Donc c'est un peu ça aussi qu'on aimerait essayer de toucher en parlant vraiment du contenu de la lettre plus que les contours de la lettre et surtout l'apparence du personnage, de toute façon une apparence qui continuera de construire et qui apparaîtra plus tard à la fin des années 60, au début des années 70. Mais là déjà en 1960 il y a beaucoup d'idées, il est en train de faire passer des idées nouvelles au Québec. Pour s'intéresser surtout à la lettre, on pourrait prendre ça un peu en deux parties, pas trop scolaire quand même, mais il faudrait quand même diviser un peu les choses et peut-être parler d'abord dans une première partie les liens de Strahan avec le Québec, avec la vie intellectuelle du Québec, ce qu'on pourrait appeler le diagnostic de Strahan au Québec, pourquoi il fait un tel diagnostic à Debord et qu'est-ce qu'il en tire comme diagnostic et en quoi ça participe même de ses idées situationnistes de faire un tel diagnostic. C'est pas juste du... pour critiquer la situation lamentable. Il n'est pas tendre à l'égard de plusieurs intellectuels, de la vie intellectuelle au Québec, on verra pourquoi. Et peut-être dans une deuxième partie, voir les liens plus serrés avec Debord, parce que la pensée de Strahan, la pensée situationniste de Strahan, a quand même certaines différences avec celle de Debord sur un point assez précis, et on essaiera, je pense, d'éclairer ce point, le différent de Debord et Strahan, un différent qui va les conduire finalement à une séparation à partir de 63, je crois. Ils arrêtent de correspondre, donc on voit qu'il y a une coupure. Donc on pourrait peut-être en discuter en deux parties, comme ça, en prenant le Québec d'abord et les liens avec Debord ensuite. Comment tu résumerais son statut, social, au Québec de Strahan? Il est sans papier, c'est pratiquement un sans papier pendant 5 ans au Québec. Il vit de petits boulots à la pige, Radio-Canada entre autres, quelques revues, mais se plaint beaucoup de même pas avoir assez d'argent pour envoyer des lettres, donc il attend que des amis partent pour la France pour remettre des lettres à Debord ou à d'autres copains. À un moment donné, il se plaint de devoir quêter de l'argent pour prendre l'autobus pour aller... pour se rendre un boulot, parfois minable, comme repeindre des bungalows en banlieue de Montréal. Donc, il y a un statut assez précaire.
Oui, tout à fait. En fait, il évoque à Debord le fait que la vie matérielle telle qu'il l'expérimente à ce moment-là, que tu viens bien de décrire, ne le satisfait pas. Par ailleurs, la vie telle qu'il la mène au quotidien, c'est-à-dire ses habitudes, la liberté de mouvement qu'il peut avoir, à ce niveau-là, il en est satisfait. C'est un peu intéressant comme réflexion, comme s'il y avait deux situations dans lesquelles se retrouverait Sraram. D'un côté, les difficultés matérielles, et de l'autre côté, une certaine liberté de mouvement qui lui est tout à fait profitable. Il y a là un trait distinct de la personnalité de Sraram qui va s'amplifier avec le temps, et qui est déjà là très très présent dans ses propos à Debord, entre autres choses. Il a un problème qui va s'amplifier à la suite. Sa critique qu'il fait de la société québécoise dans sa lettre dans les premières pages, le fait que c'est une société assez fermée, repliée sur elle-même, qui fonctionne comme fonctionne une petite clique, que si on n'est pas membre de cette clique, on est forcément persona non grata, il n'y a comme pas de milieu ou de marge où on pourrait se placer. Bon, cette critique, Sraram l'a fait, de manière quand même moins, je dirais, avec moins de pathos que dans les textes des années 70 où il devient cette icône de la contre-culture, dans des romans comme La fin de l'énigme, où là, on a l'impression que ce carcan qui est l'objet de sa critique concernant le milieu qui serait l'élite intellectuelle québécoise, fait un peu écho au carcan dans lui-même se retrouve, c'est-à-dire une sorte d'isolement, une logique extrêmement radicale qui le mène à vivre dans un dépouillement qui lui offre peut-être un surcroît de liberté, mais aussi une misère extrême.
Mais qui le laisse d'un côté moral tout à fait libre de ses actes.
Il utilise le terme moral dans la lettre, c'est très important. Sur le plan moral, il est bien. Mm. Il est si on veut, dans une intégrité, une plénitude qu'il a peut-être eu autrefois et par la suite du mal à avoir.
Ce point-là est assez important parce que la critique qu'il fait des intellectuels au Québec porte en partie sur cette espèce de, comme tu l'as appelé, cette clique, comme lui l'appelle, hein,
oui,
de toute manière, cette clique.
Terme.
Ce que dit Sraham nous donne l'impression qu'à l'époque, dès qu'on faisait partie d'un milieu, on était pris moralement par cette clique-là et on n'avait plus de possibilité d'agir ou, en tout cas, on perdait une liberté.
Oui, en fait, il vilipende d'une forme de communautarisme qui crée un effet de ventouse. Impossible de se déprendre de cette communauté une fois qu'on y est entré et qu'on maîtrise les codes de cette communauté. Et c'est assez intéressant parce que ça n'a peut-être pas été présenté souvent ainsi, mais il y a peut-être une forme vraiment féodale dans cette manière de faire. C'est son terme, en fait. Il parle de féodalisme en se référant à Lefebvre, je pense. Un féodalisme hérité aussi de la culture chrétienne. Encore là, il voit comme ça un binarisme dans la société québécoise, ce qui serait d'une part cette logique des clics qui peut-être prend des formes telles que la franc-maçonnerie, qui se rapproche qui se rapproche d'un féodalisme ou d'un legs du féodalisme chrétien. De l'autre côté, parfois ça peut aller ensemble, une foi en le libre marché et en cette chimère du self-made man.
Voici une citation de Sraham qui est absolument claire hein, sur ce point. On ne peut réaliser autrement à quel point est passé dans les mœurs et sert de base partout, en tout, un système de valeurs réactionnaires admis une fois pour toutes. Il parle du Québec, hein. Conséquence et cause à la fois d'un mode de vie, d'une politique et d'une aliénation consentie, à partir de quoi son état d'esprit et état de fait de la communauté canadienne-française. Une communauté, c'est là que ça devient intéressant, une communauté vivant aujourd'hui en même temps le capitalisme américain dans son modernisme le plus inhumain et le féodalisme catholique le plus traditionnel et le plus inquisitorial. Un diagnostic très, comment je pourrais dire, l'impasse même dans laquelle la vie intellectuelle au Québec est en train de, finalement, de s'abîmer un peu. Et c'est là qu'il dit à Debord, et après ce diagnostic, il dit « les conditions sont réunies d'une certaine manière » pour parler ici d'une époque pré-révolutionnaire. C'est-à-dire, la situation est telle qu'il s'agit d'une impasse qui doit absolument être surmontée. Donc, d'une certaine manière, quand il est en train de dépeindre la situation de l'intellectuel ou de la vie intellectuelle au Québec, il était en même temps en train de dire à Debord qu'il est dans une situation qui demande absolument un changement. Donc, une situation idéale pour essayer, tester, valider, je dirais, les thèses du situationniste qui veut effectivement changer la vie. Et d'une certaine manière, il se donne un peu le beau rôle parce qu'en échappant à toutes ces cliques, en diagnostiquant ainsi la société québécoise, la vie intellectuelle au Québec, Strahram se met en position d'être l'acteur, l'agent de la révolution, en introduisant, entre autres, en introduisant les idées du situationnisme. Et je crois que le premier cahier, le seul cahier situationniste au Québec, un cahier pour un paysage à inventer, témoigne en tout cas de cette position que Strahram veut bien jouer dans la situation du Québec. Et cette situation donc qu'il dépeint à Guy Debord.
Oui, en fait quand il écrit à Guy Debord, il publie en même temps le cahier pour un paysage à inventer, et dès l'introduction en fait de ce cahier, c'est un peu le même propos qu'il tient en d'autres termes dans sa lettre à Debord, il se situe dans une sorte de confluent où il a une liberté d'acte en fait, au moins au moment de publier ce cahier qui est vraiment un test et qui n'a pas encore à l'esprit les critiques qu'on va faire à propos des textes situationnistes, mais ça va venir très très vite, ce qui va entre autres bloquer la possibilité de publier un deuxième cahier, qui était le projet de Strahram à la base dès la publication du premier. Donc, il annonce dans sa préface, dans son introduction, cette liberté possible, et en même temps que cette liberté est brimée, est bloquée. Et c'est cette logique un peu paradoxale qui de liberté possible et de blocage qui lui permet de formuler un espoir que ces idées du situationnisme puissent passer dans la pensée intellectuelle québécoise à plus ou moins long terme, entre autres par des productions culturelles qui s'inscriraient dans la suite de ce cahier. Et on va voir, on en parlera peut-être plus tard dans d'autres épisodes, comment le cinéma à certains moments, à travers divers modes de production au Québec, reprendra des idées qui sont déjà en germe ou même présentes dans les cahiers. Un des moments importants qui montre cette situation paradoxale qu'essaie d'affirmer Strahram, c'est ce moment à la fin de l'introduction de son cahier où il note le fait qu'un des poètes participants au cahier n'a pas finalement offert à cette publication certains poèmes parce que d'autres personnes lui ont déconseillé de le faire. Et donc, cette critique de la clique qu'il formule bien à Debord, elle revient d'une manière peut-être plus polie dans cette introduction du cahier. Et autrement dit, ce qu'il dit à Debord, qui se résume aussi de manière très concrète en ceci, c'est-à-dire, j'ai des amis qui sont dans cette clique, mais ces amis ne veulent pas perdre les liens qu'ils ont dans cette clique, donc ils ne m'aideront pas toujours. Ce sont quand même des amis. Ils peuvent basculer dans un camp ou dans l'autre. Maintenant, c'est de savoir comment, en basculant d'un camp à l'autre, on ne crée pas une autre cellule. Comment ne pas créer une autre cellule? C'est là tout le problème.
Et c'est ce qui explique aussi la fin de la lettre à Debord. Dans la fin de la lettre à Debord, il revient un peu sur la situation de quelques intellectuels qu'il connaît bien, dont Jacques Godbout, Gilles Carle, entre autres. Et il anticipe... Bon, Gilles Carle est encore tout à fait moralement libre à l'époque. Par contre, il anticipe et il souhaite qu'il restera libre, mais il voit très bien que peut-être que Gilles Carle tombera dans les filets de l'institution, etc. Jacques Godbout, dont il arrive peu à saisir le personnage, donc il anticipe en tout cas cette possibilité que certains intellectuels libres, du moins au début des années 60, puissent tomber dans les institutions, etc., et qui leur couperait toute liberté de mouvement.
Évidemment, le parcours qui suivra de Pierre-Éliott Trudeau lui donne mille fois raison.
Pourquoi Strahram parle aussi longuement de sa situation précaire et de sa situation parmi les intellectuels au Québec, donc dans la vie intellectuelle au Québec, c'est que Strahram, et de toute manière les situationnistes aussi, s'appuient beaucoup sur les thèses que développait Henri Lefebvre, je crois que c'est dans les années 40, dans Critique de la vie quotidienne, donc sur la question du quotidien, ou de la vie quotidienne. Donc Strahram, d'une certaine manière, fait le diagnostic de la vie intellectuelle au Québec, à partir de ses propres conditions de vie, et il rentre donc dans sa vie, dans sa propre vie quotidienne, quand il dit par exemple qu'Arthur Lamotte lui amène du café. C'est très drôle de voir ça dans une lettre où il est en train de parler de la vie intellectuelle au Québec, et c'est le seul moment où il cite Arthur Lamothe. Or, Arthur Lamothe lui amène du café. Or, il dépeint vraiment la situation de la vie intellectuelle au Québec dans ses faits les plus quotidiens, c'est-à-dire le café, ou le fait de quêter pour prendre l'autobus, quêter des cigarettes, etc. Or, on dirait, ça pourrait être presque de l'ordre de l'anecdote inutile, du portrait de situation, je dirais, qui serait de l'ordre presque du bavardage. Or, quand on prend conscience, on prend la mesure sur qui les situationnistes s'appuient, sur la question du quotidien, or là, ça prend tout à fait une autre dimension, ces notations, ces remarques sur sa propre vie, je dirais, au quotidien. Et c'est dans cette vie, il y a vraiment un passage, une continuité en cette précarité économique et cette précarité, je dirais, intellectuelle, et surtout les risques que cette vie intellectuelle comporte dans la société au Québec, c'est-à-dire de se faire prendre finalement par le côté un peu facile de la vie, dans une espèce de sécurité, je dirais, quand il donne l'exemple de cet intellectuel qui va prendre un verre de scotch en Triomphe dans les Laurentides, donc la petite voiture Triomphe, on voit la décapotable. Donc, il dit « Moi aussi, j'aimerais, d'une certaine manière, aller prendre un scotch en conduisant une Triomphe, mais après la Révolution, pas avant. » Donc, toute cette question un peu « Pourquoi critiquer, finalement, le fait qu'un intellectuel possède une voiture Triomphe et va boire du scotch, etc. » Pourquoi critiquer des éléments aussi... des faits aussi banals en apparence. Or, quand on comprend le concept fondamental de pensée de Straham et celui aussi de Debord, qui est le quotidien, donc on pourrait dire la situation de la vie à toute heure et en tout lieu, je dirais. C'est un peu ça, très, très largement, le quotidien. Or, c'est là qu'on voit à quel point ces remarques un peu futiles en apparence deviennent la substance même du diagnostic de la société québécoise. Et par le fait même, il se met en situation.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est intéressant de voir à quel point ces moments qui pourraient être purement anecdotiques, voire mondains, où il nomme des personnes qui vont devenir connues, en fait. Dans le cas d'Arthur Lamothe, en 1960, personne ne sait c'est qui, pratiquement. Y compris dans le milieu de l'audiovisuel québécois, c'est pas quelqu'un de célèbre, c'est quelqu'un qui circule dans ce milieu-là. Ce qui est amusant aujourd'hui avec le regard de lecteur qu'on peut avoir, c'est de savoir que soudain, ce texte peut avoir l'effet d'un carnet des mondanités. Quelle personne Straham croisait à l'époque, il croise à peu près toutes les célébrités qui ont servi la scène intellectuelle et culturelle. Mmh. Mais à l'époque, c'était
pas... Oui, le poète dont tu faisais, auquel tu faisais référence, c'est Gaston Miron, de toute manière, qui écrira ce petit texte dans un cahier. Et sans doute, derrière Gaston Miron aussi, il y avait Jean-Guy Pilon, enfin... ça reste sous-entendu dans la lettre, mais c'est vrai qu'il touche déjà des grandes figures, ceux qui marqueront en tout cas la vie intellectuelle dans les années 60-70 au Québec, c'est clair.
J'insiste là-dessus aussi parce qu'il pourrait y avoir un malentendu qui fasse son chemin dans l'esprit du lecteur aujourd'hui, puisque ayant en tête toutes ces figures très célèbres maintenant, il peut y voir d'une certaine manière une méthode qui relèverait du name-dropping, du carnet des mondanités, alors que c'est pas du tout le cas, comme tu le montrais bien tout à l'heure, c'est aussi... un moyen que trouve, un ressort presque rhétorique que trouve Straham pour introduire dans sa lettre, au-delà du discours puis de son goût de communiquer avec Debord, donc au-delà d'un discours bien formaté, une manière de faire passer comme ça des moments de la réalité, des bouts de réalité de la vie à Montréal avec les personnes qu'il rencontre et la communauté qu'il côtoie. C'est peut-être pour ça, et c'est un des effets retors de son écriture à Straham à plus long terme, qu'aujourd'hui on se souvient beaucoup de la figure mondaine et un peu moins de son écriture. Mais à la base, il faut voir à quel point cette référence au monde et au milieu dans lequel il circule était liée à son goût de mettre en scène le quotidien, et cela relève d'une forme d'éthique de l'écriture, qui rejoint une modalité de l'écriture qui a pris la forme chez les situationnistes en France, entre autres de la parodie. Et la compagne de Guy Debord, Michel Bergstein, à la même époque, écrit des parodies de romans fameux, entre autres, elle imite le style de François Sagan. Et un des procédés, ça s'appelle Les Chevaux du Roi, c'est publié chez Alien, un des procédés de cette parodie consiste à jouer sur la répétition et sur la mise en scène constante de situations extravagantes dans des contextes mondains, toujours dans des cafés, dans des terrasses, dans une ambiance germano-pratine. Donc, ce goût de la parodie chez Bernstein, qui était aussi une situationnisme, passe par la mise en scène du quotidien. Et la critique de Sagan est aussi une critique du quotidien mis en scène dans le roman type de surrédigé par François Sagan. C'est pas simplement une lubie littéraire et mondaine que propose Traram, ça s'inscrit dans un projet plus vaste dont on a les preuves aussi dans le corpus français situationniste.
Oui, parce que il faut dire, le situationnisme voulait changer les comportements, changer les pratiques de vie, changer la vie. Donc là, tout à fait, le lien avec les avant-gardes est clairement défini, clairement établi par Debord. Et pour eux, changer le comportement, changer la vie, c'est vraiment changer les pratiques quotidiennes. C'est pas seulement changer une vie intellectuelle, changer des lectures ou se cultiver plus ou aller à l'école ou quoi que ce soit. C'est d'abord, ça passe d'abord par un changement même de la vie dans les rues, dans les cafés, etc. L'atmosphère, l'ambiance, ça serait changer tout ça. Donc les milieux de vie. D'où d'ailleurs, ceux qui connaissent un peu les situationnistes, les dérives, la psychogéographie, etc., créer des milieux émotionnels, ambiants, passionnels, et des milieux toujours transitoires, évidemment. On ne refixe pas un milieu, on ne refixe pas une situation, on cherche constamment à reconstruire des situations. Le point de départ, c'est tout de même la vie quotidienne, comme tu dis, dans les cafés, dans la rue, dans les rencontres avec les amis, ou les rencontres fortuites. Sur la rue, sur les trottoirs, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'ancrage premier. D'où, et comme tu disais, je crois que c'est très juste que tu dises que c'est pas du name-dropping. Bon, en 1960, comme tu disais, Arthur Lamotte est inconnu, donc ça participe pas de cette logique-là. Au contraire, ça ancre, par contre, et c'est peut-être ça aussi qui manque dans nos histoires de la vie intellectuelle au Québec, c'est-à-dire cette quotidienneté d'un intellectuel, ces préoccupations quotidiennes. Bon, on peut les trouver des fois dans des journaux de certains écrivains.
Dans les chroniques de Gérald Godin, parfois.
Oui.
Sur le plan de l'anecdote. Hein.
Mais dans l'esprit de Straham, c'est que ces notes-là ont une importance absolument fondamentale. D'un coup, tout change, c'est-à-dire c'est à partir de quoi on pense et c'est à partir de quoi les choses vont changer. Comme je le disais peut-être un peu plus tôt, Debord qui approche Traham pour renouer le contact avec l'international situationniste, Straham est en train de dépeindre évidemment à Debord une situation qui doit absolument changer la sienne et par extension la vie intellectuelle au Québec. Donc il est en train d'une certaine manière, en faisant le diagnostic de sa propre vie au quotidien, mais aussi de la vie intellectuelle au Québec, il est en train de dire à Debord, regarde, je suis dans une situation idéale, finalement, pour agir de manière révolutionnaire. Hein, il est en train, de justifier, voire légitimer sa position. Donc, ça a, d'une certaine manière, ça doit lui produire, j'imagine, un certain enthousiasme. Hein, il cherchait justement, Sraram cherchait un stimulant intellectuel d'une certaine manière. Or, Debord lui offre, ou du moins cette correspondance avec Debord lui offre la possibilité de conscientiser, d'objectiver, comme dirait Sraram, sa situation même et d'en faire, la substance même qui annonce une révolution à venir.
Oui, on dirait que cette lettre lui donne de la vigueur. Mais aussi, ça lui permet de montrer à Debord, à travers ces scènes du quotidien, comme le moment où Lamotte vient lui porter du café, le moment où il parle de ses difficultés même à prendre le bus, comment il est dans l'action. Et je dirais que dans son éthique d'écrivain déjà à l'époque, et de faire le lien de manière systématique entre son travail d'écriture et l'action qui le mène à l'écrire, ou l'action dans laquelle il se trouve au moment même où il écrit. Tout cela est indissociable. Et le projet de vie, le projet d'écriture, la mise en situation qui est au cœur même, évidemment, du projet situationniste, la provocation de l'événement, est aussi l'objet de l'écriture et sa fin.
J'ai une petite citation de Gaston Miron qui a été publiée dans un spécial Straham dans Hobo Québec. Ça fait écho à ce que tu viens de dire, que Straham était quelqu'un de l'action. Straham n'est pas l'homme du questionnement, il est d'abord celui qui fait la preuve et qui paie la note. Dans sa critique de la vie quotidienne, il devient le vécu et la somme des contradictions de la gauche. Il est alors poétique et dialectique, totalisation, résolution. C'est surtout cette idée de Miron que il est l'homme qui fait la preuve et qui paie la note. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui est en situation autant en amont qu'en aval.
Oui, oui, c'est bien de rappeler ça, cette mise en acte qui passe par l'écriture, mais qui est aussi projet d'écriture, dans la mesure où, encore une fois, il faut déboulonner les statues ou les images grossières. Straram est très reconnu pour son nihilisme prohibitif, mais c'est aussi un sportif. Entre autres choses, c'est une anecdote encore, mais je crois que ça illustre bien le propos. Il a été champion cycliste dans les années 60. Et il argumente, on va en parler un peu plus tard, mais il argumente à la fin de sa lettre à Debord sur le fait que la création, l'expression a une valeur aussi importante que la mise en acte, dans la mesure où, en tant que récepteur d'un film, en tant que lecteur d'un poème, on peut avoir un effet parfois aussi intense que ce qu'on ressent dans la vie amoureuse. Mais il ajoute ensuite aussi bien les rencontres avec les amis de hasard dans les bars, et là, bon, c'est l'utilisme prohibitif qui revient, et également la performance sportive.
Est-ce qu'on pourrait pas dire, finalement, ce que cherchaient un peu les intellectuels au Québec, c'est aussi d'être dans l'action, surtout, je pense à Gaston Miron, c'est quelqu'un qui voulait être un homme d'action, qui l'a été, je sais pas qu'il voulait l'être, je pense qu'il l'était. Ça devait être franchement stimulant de voir aussi quelqu'un qui devait l'être. Peut-être trop, comme tu disais, son alcoolisme prohibitif devait rebuter certaines personnes, ou peut-être aussi ses manifestations sans doute trop criantes lors des grèves, etc., étaient quelque chose qui, sans doute, était pas tout à fait le genre d'action qu'on cherchait ou de manifestation qu'on cherchait au Québec. Mais tout de même, on voulait, je pense aussi à Aquin, beaucoup à l'époque, qui voulait être dans l'action. Ça devait être, du moins en partie, une figure qui a marqué tout de même un certain imaginaire, du moins des intellectuels à l'époque, cette figure du type qui est vraiment quelqu'un qui ne se questionne pas, justement, mais qui est directement dans les faits et dans l'action. Et on sait très bien que le questionnement, a une vertu, mais où il a aussi le défaut, le questionnement a aussi le défaut d'arrêter ou de fixer du moins les choses.
Oui, donc c'est pas une figure tout d'un bloc, au sens où ce serait aussi une figure qu'on pourrait qualifier de tragique compte tenu de son parcours difficile et son isolement progressif dont on a déjà suffisamment parlé. C'est également un homme d'action, un homme qui est au confluent d'une communauté qu'il veut à sa manière incarner dans son écriture. Et ce faisant, la lettre à Guy Debord est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sylvano, une main tendue. Donc, l'art de la conversation, le goût de l'échange est au cœur même de ses propositions, et cela va le tenir jusqu'à la fin. Et un des derniers témoignages qu'on a de Straram, parce que c'est un homme de radio, donc un homme de parole, pas simplement un homme qui se questionne et quelqu'un qui fait de ses propositions des points de suspension. Le dernier livre publié de lui, en fait, c'est un témoignage audio où il parle pendant 2 heures et on en a fait la retranscription. À la fin des années 80, au début 90, si je ne m'abuse, c'est publié chez Guernica. Donc jusqu'à la fin, même dans l'isolement et les difficultés matérielles extrêmes qui étaient les siennes, sans de plus extrêmes que ce qu'il décrit à Debord, c'est un homme de parole, c'est un homme qui fera tout ce qui est possible de faire dans la situation qui est la sienne pour se faire entendre. Thank you.